Quelles raisons structurelles et conjoncturelles expliquent ce sursaut de foi?
Ce monde est très insécurisé. Ma génération, j'ai engagé ma vie dans les années 90, on avait l'avenir devant nous, la paix était là, la technique semblait dominer. Aujourd'hui, la paix n'est pas devant nous, la technique domine pas grand-chose et on sent une incertitude, une insécurité croissante et les gens se disent mais qu'est-ce qui tient? Je me souviens souvent de l'expression du pape Benoît XVI quand il était venu à Paris, aux Bernardins, quand il était venu de ces jeunes qui au Moyen-Âge étaient venus dans ce couvent de Saint-Bernard, il disait ils font de l'eschatologie existentielle, c'est-à-dire qu'ils cherchent dans ce qui est mouvant ce qui va durer. Eh bien, je pense qu'il y a une recherche d'eschatologie existentielle chez beaucoup de nos contemporains. Dans tout ce qui bouge, des questions fondamentales se reposent qui ne se posaient plus. La technique ne résoudra pas tout, la paix n'est pas acquise. Qu'est-ce qui tient dans un monde aussi éclaté? Et je pense que là, on se repose des questions et on refrappe à des portes pour une génération qui ne connaît pas l'Église. C'est pas du tout ma génération qui a des comptes à régler avec l'Église. Ceux qui arrivent, ils n'ont pas de comptes à régler avec l'Église parce qu'ils la connaissent pas. Mais je pense que l'incertitude du monde joue beaucoup. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je crois que, à force d'être dépouillé, nos communautés sont beaucoup plus disponibles. Elles étaient sûres d'elles-mêmes, elles ne le sont plus. Et du coup, il y a beaucoup plus d'espace pour la personne qui arrive, qui est différente. J'interpellais là dans à la messe chrismale du diocèse, je dis, mais les catéchumènes qui arrivent et qui arrivent en masse dans une paroisse du diocèse, 17 baptêmes la nuit de Pâques, il y en avait un ou deux ces dernières années de temps en temps, il y en a 17. Je dis, mais est-ce qu'on se les assimile, c'est-à-dire qu'on veut les faire devenir comme nous étions hier, ou est-ce qu'on entend la parole que Dieu nous dit par eux? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans la fragilité, alors je parle pour l'Église de France, avec la crise des abus, avec la sécularisation galopante. Dans cette fragilité-là, il y a une disponibilité plus grande à ceux qui passent et qui sont différents.
Perçoit-on aussi une inflexion depuis la pandémie, une quête ou un retour de sens et transcendance en un moment de crise?
La pandémie, pour moi, a fait basculer, et bien plus qu'une question d'épidémie ou d'hygiène. En fait, je pense que la pandémie, c'est une bascule dans le paradigme intellectuel qui dominait la France depuis les Lumières. Depuis les Lumières, nous pensions que la raison pouvait tout résoudre, que la technique, le progrès, on a même parlé de science philosophique. Enfin, le marxisme était présenté comme une science de l'avenir. Hegel, Marx avaient des prétentions scientifiques et tout ça s'effondre. Un petit virus, et plus vous ajoutez la crise écologique, mais un petit virus est très clairement venu dire, vous êtes sûr que vous dominez tout? Et nous pensions tout dominer, nous ne dominons pas tout. Et je pense que là, de fait, il y a une ouverture à des questions nouvelles.
Chaque parcours de foi est unique, mais quels éléments spirituels attirent particulièrement ces nouveaux fidèles?
Il y en a certains qui ont vraiment fait une expérience de salut. Quand vous lisez les lettres de catéchumènes, la très grande majorité de leur vie est abîmée, cabossée, maltraitée. Je lis certaines lettres, je dis, mais j'aurais jamais résisté à ce qu'ils vivent. Et dans cet itinéraire, ils ont fait l'expérience que quelqu'un les mettait debout. Certains, l'expérience évidente du Christ. D'autres, bah, au début, ils n'arrivaient pas du tout à nommer, mais il y avait une expérience qui a réouvert une espérance, et c'est vraiment une expérience de salut. La grâce de Dieu au cœur du mystère des ténèbres et du scandale du mal. Pour un certain nombre aussi, dans le Pas-de-Calais, dont je suis l'évêque, la piété populaire a une très grande importance. Et ce qui nous frappe, c'est que la très grande majorité des catéchumènes viennent de milieux populaires, de milieux très simples. Sans avoir fait l'expérience de salut, il y a parfois, dans des milieux pas du tout élevés chrétiennement, mais il y a quand même une grand-mère, un grand-père, et puis même des non-baptisés s'arrêtent régulièrement dans des sanctuaires pour déposer une bougie. Et moi, je crois que la foi populaire, qu'on appelle la piété populaire, dont le pape parle aussi régulièrement, elle est une espèce d'ancrage, d'ouverture sur le sacré. Alors, qui, quand ils arrivent, quand ils viennent nous voir, hein, là, cette catégorie-là, ne nomme pas Jésus. Ils arrivent, ils veulent être baptisés, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils n'en ont pas l'idée. Mais ils sentent que là, on peut s'adresser à quelqu'un qui les aidera à cheminer. Et ils arrivent sans pouvoir nommer le Christ, et puis petit à petit, ils le découvrent et ils l'accueillent comme leur sauveur.
On note une hausse des catéchumènes en territoires ruraux. Or, ce sont eux qui souffrent le plus de pénurie de prêtres. Comment pourra-t-on résoudre l'équation?
Eh bien, en devenant toujours davantage l'Église du Christ, soutenue par les ministères ordonnés, mais au nom de quoi? Ça devrait être les prêtres qui portent tout. Dans mon diocèse, ce n'est pas les prêtres qui vont porter la proximité auprès des territoires, c'est les fraternités de chrétiens. Je viens de demander publiquement à la messe chrismale à tous les chrétiens sans exception d'entrer dans des petites fraternités locales. Et c'est eux qui vont dire la fraternité du Christ. Après, ils seront soutenus, encouragés, formés, rassemblés par les prêtres. Mais de fait, moi j'ai 1 470 000 habitants dans mon diocèse, j'ai 70 prêtres en activité. Et donc là, je pense qu'on est invité à un changement de paradigme qui n'invalide absolument pas, au contraire, qui remet en valeur le ministère du prêtre, mais qui n'est plus l'homme à tout faire, sur qui tout se joue, mais qui stimule une communauté, qui aide les chrétiens à être présents là où ils ont à être présents. Ce que je pourrais ajouter aussi, mais là c'est pas directement le catéchuménat, c'est que moi les séminaristes que je vois arriver dans mon diocèse, ils viennent des mêmes horizons que les catéchumènes. J'ai deux personnes qui vont entrer au séminaire à la rentrée, ce ne sont pas du tout de milieu catho. Mais elles ont fait une expérience du Christ, ils ont été baptisés adultes et ils veulent servir. Alors, ils connaissent pas la grande tradition de l'Église, ils vont la découvrir petit à petit, mais c'est tout à fait désarçonnant. D'ailleurs, la formation des prêtres doit prendre ça en compte, et je pense que c'est une évolution majeure. Mais dans un diocèse comme le mien, le Pas-de-Calais, un diocèse à la fois marqué par la ruralité, mais aussi par une industrie qui s'est effondrée, par les mines, on est très surpris des figures qui arrivent, qui sont merveilleuses, mais qui ne sont pas du tout celles que nous connaissions jusqu'ici. Comme si aussi, vous voyez, quelqu'un faisait la réflexion. Je suis de milieu bourgeois, hein, moi, c'est très clair. Mais l'Église en France, à un moment, elle a été très classe moyenne. La bourgeoisie, petite, moyenne, grande bourgeoisie. Et comme si là, eh bien, aussi, les milieux populaires réinvestissaient l'Église et se disaient, mais le Christ est notre sauveur et c'est notre communauté. Et ça, c'est un vrai changement pour tous les chrétiens, mais c'est une merveilleuse bonne nouvelle.
Que préfigurent ces changements sociaux dans la pratique ecclésiale pour l'avenir du catholicisme en France ?
De fait, je vois une Église moins nombreuse, c'est évident, beaucoup moins nombreuse encore aujourd'hui, on va continuer à être moins nombreux, et en même temps, potentiellement, une Église moins habituée, une Église petite communauté d'espérance. En fait, je trouve cette période décapante, mais extrêmement stimulante, et vraiment, il faut que les chrétiens n'aient absolument pas peur. Le monde est difficile, la vie est difficile, mais le Seigneur ne laisse pas tomber son Église. Moi, je perçois un renouveau ecclésial qui n'est pas le retour à une splendeur d'antan. Ça, c'est une impasse. Il ne faut absolument pas rêver à ça. Le Seigneur ne travaille pas à partir du passé, mais il appelle vers l'avenir. Mais dans cet avenir, moi, je vois bien qu'il nous fait des dons qui sont de vraies promesses pour l'Église. On sera moins nombreux. On n'aura plus la place institutionnelle qu'on a cru avoir. On n'a peut-être pas eu tant que ça. Quand je vois le manque d'impact que nous avons aujourd'hui dans les débats publics, c'est très marquant pour moi. Mais enfin, on sera à la hauteur de ce qu'on aime, c'est-à-dire aussi présent au don de Dieu et pas enfermé dans des habitudes.
Le patrimoine religieux est évoqué cette année comme facteur d'évangélisation dans l'enquête catéchuménat. Quelle est l'importance du beau dans la foi ?
Les personnes sont sensibles au beau. Moi, j'ai été curé en cité et ils aiment avoir de belles églises, de belles liturgies. Ils ont une proportion au silence que les pseudo-intellectuels dont j'ai pu croire être à un moment, qui se perdent dans des verbiages infinis, ne comprennent pas. Et en fait, il y a une espèce de sobriété, mais de profondeur de la beauté. Combien m'ont dit, on s'est arrêté dans une église, la qualité du silence. Il me dit, mais il y a une qualité de silence que vous ne trouvez que dans les églises. Et si jamais l'église, elle n'est pas abandonnée, mais qu'il y a encore une vieille chrétienne qui la balaye régulièrement, et ils sentent une âme vivante. Moi, j'ai vu des gens devant une statue, devant un tableau, tout d'un coup être transpercés. Le beau n'est pas le seul élément, et il va falloir une parole derrière. Mais il peut être un élément déclencheur. Il est une porte ouverte. Il est une porte ouverte sur le don de Dieu.